France Bleu Paris. Circuit bleu, côté expert, Ségolène Aluni.
Ça fait déjà 40 ans qu'elle nous a quittés. Celle qu'on surnommait la petite fiancée de l'Autriche restera gravée à jamais dans nos mémoires, éternellement imprimée sur la pellicule de nos rétines. On parle de Romy Schneider. Romy Schneider à l'honneur à l'occasion d'une superbe exposition rétrospective à la Cinémathèque de Paris. Et pour en parler avec nous dans le Côté Expert jusqu'à 10h, un spécialiste en la matière, Jean-Pierre Lavoignat. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Journaliste cinéma, co-créateur du magazine Studio, réalisateur de documentaires sur des personnalités du cinéma et auteur du livre Romy, paru aux éditions Flammarion. Bon, votre CV est long comme le bras, donc on va éviter de le déployer en totalité.
C'est le privilège. L'âge de l'âge.
Il vous vient d'où cet amour pour le cinéma, Jean-Pierre Lavoignat? De très très loin.
Du cinéma. Okay. Non, je sais pas, j'ai découvert le cinéma quand j'étais adolescent. Et j'ai aimé ça pour les émotions que ça procurait, les voyages que ça faisait faire, les personnalités des acteurs, puis des metteurs en scène. Puis c'était un endroit où on pouvait aller tout seul.
Ouais.
Et où on était bien, et voilà.
Et quand on est amoureux de cinéma, impossible de ne pas être amoureux de Romy Schneider, hein, puisqu'elle est elle en est une forme d'incarnation.
Mais bien sûr.
Est-ce que vous vous souvenez du premier film dans lequel vous l'avez vu?
Alors, oui, forcément, j'ai vu des Sissi avec ma sœur
quand nous étions petits,
que ma tante nous avait amené voir Sissi. Donc, je me souviens que j'avais été impressionné par les grands bals, par tout ça. Ça se perd un peu quand même. Mais je pense que le premier film, adolescent ou jeune adulte que j'ai vu, c'est César et Rosalie.
Ah ouais, ça marque.
Ou La Piscine. Je sais plus bien lequel des deux en premier. En plus, ils sont sortis à peu d'années de différence. Donc je sais plus bien si lequel des deux j'ai vu, mais en tout cas là j'ai découvert une nouvelle actrice, quoi. Donc
ouais.
Et elle était belle, sensuelle, troublante, magnifique actrice avec des beaux partenaires, tout ça. Donc elle a fait partie des premières actrices que j'ai aimées, mais avec d'autres, hein, avec d'autres. J'ai un peu un cœur d'artichaut, mais j'ai beaucoup de feuilles, comme disait je sais plus qui.
Oh, c'est très joli ça. Même si vous me l'apprenez. Coup de projecteur sur l'œuvre et la vie de Romy Schneider à l'occasion de l'exposition hommage qui lui est rendue en ce moment au musée de la Cinémathèque de Paris. Et nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Lavoignat jusqu'à 10h sur France Bleu Paris. Et en parlant de souvenirs cinématographiques, voici des souvenirs corréziens avec les trois cafés gourmands pour la musique à nos souvenirs sur France Bleu. Et de souvenirs, il est question ce matin puisque nous avons choisi de retracer la vie d'une femme en avance sur son temps. Une femme qui se revendiquait libre avant tout, moderne et entière. Romy Schneider ne plaçait pas de frontières entre sa vie et le cinéma. C'est ce que rappelle l'exposition qui lui est dédiée en ce moment à la Cinémathèque de Paris. Jean-Pierre Lavoignat, dans votre livre « Romy », vous citez le réalisateur André Zulawski qui disait « Elle a sans doute payé dans sa vie tout ce qu'elle donnait de magnifique, d'intense et de déchirant à la caméra ». Parce qu'on savait que c'était une femme très torturée. Elle était trop entière, trop absolue dans son travail.
C'était une femme éprise d'absolu, oui, ça c'est sûr, qui était en quête d'absolu et d'accomplissement artistique. Et qui, après, je pense que la formule de Zulawski, elle est un peu excessive. Mais c'est quelqu'un qui s'impliquait totalement dans ses rôles. Ce qui est d'ailleurs assez joli dans l'exposition, c'est qu'il y a quelques mots de Romy Schneider adressés à Claude Sauté et qu'elle signe du nom de son personnage.
Ah oui.
Alors que c'est des mots personnels. Ou alors des fois elle met Romy, trait d'union, Hélène. Voilà. Non, mais elle s'impliquait totalement dans son métier. Elle a un pouvoir d'incarnation incroyable. Et d'ailleurs, quand on regarde les films, on voit jamais le travail. On a l'impression qu'elle ne joue pas, qu'elle est, comme il est coutume de dire. Mais c'est vraiment vrai pour elle. Il y a quelque chose de, elle a la rigueur d'un fil à plomb, quoi. On voit jamais le travail. Juste, on est séduit par elle, bouleversé par elle. C'est Tavernier qui disait, elle truque pas, elle fabrique pas les émotions, elle les recrée de très loin, elles viennent de très loin. Donc cette implication, après dire qu'elle a payé dans sa vie ce qu'elle a donné au cinéma, je trouve c'est un peu réducteur quand même. Et puis c'est un côté un peu comme une espèce de fatalité qui est pas juste ça. Après c'est vrai qu'elle a été dans les dernières années de sa carrière, elle a beaucoup joué de rôles assez troubles, assez torturés. Mais c'est d'abord aussi parce que des jeunes metteurs en scène venaient la chercher, ouais, et lui proposaient ça pour l'amener ailleurs, vers des sentiers qu'elle n'avait pas explorés. Et elle, on le dit pas assez souvent, parce qu'on a, c'est une grande actrice populaire, donc on a l'impression qu'elle avait un boulevard devant elle. Mais elle avait une vraie curiosité artistique. Elle a relevé beaucoup de défis, donc elle a fait des films difficiles.
C'est ça, elle aimait sortir de sa zone de confort.
Ah bah bien sûr, bien sûr. C'est, et donc effectivement, dans les dernières années de sa carrière, qui aurait dû être plus longue, elle a beaucoup choisi d'abord ce qu'on lui proposait, mais des rôles qui n'étaient pas évidents, que ce soit justement L'importance est d'aimer de Zulawski, que ce soit Le trio infernal de Francis Giraud, que ce soit le film de Tavernier, La mort en direct. Enfin, c'est des rôles qui à la fois l'attirer artistiquement et qui en même temps peut-être répondait à des interrogations qu'elle avait elle-même. C'était une manière peut-être d'exorciser ses fantômes.
Alors ça, on va en reparler dans un instant justement. Elle disait aussi qu'elle était en avance sur son temps, hein, ce sont ses propres mots. Et là, je la cite, à une époque où il n'était nulle part question de libération de la femme, j'ai entrepris ma propre libération. Elle parlait de quoi, du coup, là, de sa liberté dans ses choix de films ou de sa liberté en tant que femme?
De tout, je pense, des deux, des deux. Après, c'était pas une militante féministe montant au créneau avec le drapeau,
non.
Mais elle a presque été féministe presque à son corps défendant.
Ouais.
C'est-à-dire que, en fait, par la manière de mener et sa vie et sa carrière, elle a, et puis les personnages qu'on lui a donnés, notamment les personnages dans les films de Claude Sauté, que ce soit César Rosalie ou Une histoire simple, c'est des femmes libres qui mènent leur vie. Par exemple, dans Une histoire simple, le film commence, elle se fait avorter sans rien dire au père de l'enfant, et à la fin du film, elle fait un enfant sans le dire à l'autre père de l'enfant quand même.
Oui.
Donc ça montre une sorte de liberté, de prise directe sur les problèmes de société de l'époque.
Romy Schneider, racontée par Jean-Pierre Lavoignat ce matin. Pierre Angulaire, dans l'histoire du cinéma, elle est mise à l'honneur en ce moment à la Cinémathèque de Paris. On revient dans quelques instants pour parler de son rapport à Paris, justement, Paris qu'elle a voulu conquérir autant que le cinéma. Ce sera juste après Cat Centuries, Please, Please, Please.
Ne faites pas de photos, s'il vous plaît.
Non, je suis une comédienne, vous savez, je sais faire des trucs bien. Ça ici, je le fais pour bouffer, c'est tout, alors ne faites pas de photos.
Divine Romy Schneider dans le film L'importance est d'aimer d'André Zulawski. On retrace l'histoire de cette icône célébrée depuis le 16 mars à la Cinémathèque de Paris avec Jean-Pierre Lavoignat. Jean-Pierre, vous aviez d'ailleurs été commissaire d'une expo sur Romy Schneider à Boulogne-Billancourt.
Oui, il y a une dizaine d'années.
C'est ça. Donc vous avez vu celle de la Cinémathèque.
Bien sûr,
évidemment.
Oui. Et elle est très bien, elle est vraiment très bien. Ils mettent, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent en avant beaucoup l'actrice et pas juste la femme publique. Et du coup, on voit, on comprend son exigence artistique, les grands metteurs en scène avec qui elle a tourné, ceux qui l'ont formée au début, que ce soit Visconti, Orson Welles, Otto Preminger. Il y a des photos magnifiques, il y a des très jolis documents aussi, notamment justement les mots dont je parlais à Claude Sauté. Il y a quelques lettres, des télégrammes où il y a un télégramme où elle lui dit j'ai lu le scénario, formidable, formidable, elle arrive ton Rosalie et personne d'autre.
Voilà. On redécouvre donc ses débuts de carrière et ses plus grands succès qu'elle doit à sa rencontre avec de grands cinéastes français. En quelle année arrive-t-elle à Paris?
Elle arrive, je pense, en 58. Et elle arrive pour tourner un film qui s'appelle Christine, qui est le remake d'un film que sa mère avait tourné avant-guerre, Libelaï.
Sa mère qui était comédienne aussi.
Qui était comédienne, bien sûr. Et elle vient, elle a choisi, comme c'est une coproduction, elle a choisi son partenaire français sur catalogue.
Ah bon?
Et c'est un jeune acteur qui s'appelle Alain Delon et qui pour l'heure est vraiment pas très très connu. Il est vraiment au tout début de sa carrière. Elle le choisit sur photo. Et il vient l'attendre à Orly, sur le tarmac. Donc leur première rencontre est immortalisée par les photographes. Et par amour pour lui, en fait, elle tombe amoureuse de lui, ils tombent amoureux tous les deux pendant le tournage. Et par amour pour lui, elle décide de refuser le quatrième Sissi, où elle n'en pouvait plus. Elle disait que c'était comme... Elle enfilait une veste qui était trop étroite. Mmh. Elle décide de s'installer en France. Et là, du coup, ça va compliquer ses rapports avec l'Allemagne, parce que les Allemands et les Autrichiens vont le prendre pour une vraie trahison. En Allemagne et en Autriche, c'est un monument national. Romy Schneider, à l'époque, c'est la première star européenne. Et puis surtout, elle incarne Elisabeth d'Autriche, donc c'est vraiment, mais c'est, quand je dis monument national, c'est vrai, il y a même des trucs du ministère de la Culture qui essayent de la convaincre de faire Sissi 4. Enfin,
ah ouais, voilà. Ça va
et
très
elle,
loin.
Elle refuse à la fois la somme d'argent qu'on lui donne et Sissi 4. Par amour et puis pour échapper à cette espèce de corset au propre comme au figuré.
Oui. Et puis elle essaie ensuite décorner aussi son image.
Bien sûr. Oui. Elle a envie d'autre chose. Donc du coup, c'est là où elle va justement travailler avec Alain Cavalier. Elle va jouer au théâtre avec Visconti alors que quasiment un an avant, elle parlait pas français.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, au début, elle était doublée.
Oui, c'est ça. Dans tous les films français, elle est doublée jusqu'à Cavalier. Et en fait, elle va s'installer à Paris et elle va avoir une nouvelle carrière et une nouvelle vie. Et c'est qu'elle y reviendra 10 ans après, en 68, toujours pour retrouver Alain Delon, mais cette fois-ci c'est lui qui l'aura choisi et imposé pour La Piscine. C'est comme si à Paris, c'était le seul endroit où elle pouvait s'accomplir à la fois artistiquement et humainement. Elle aura toujours des rapports compliqués avec l'Allemagne et avec la presse allemande, surtout. Alors, et en France, elle a justement une espèce de liberté, puis de répondant artistique avec les metteurs en scène qui la choisissent.
Ouais, et on va en parler d'ailleurs de son rapport avec l'Allemagne, et notamment avec sa maman. Et on découvre toute cette histoire passionnante à la Cinémathèque de Paris à l'occasion de cette exposition rétrospective. Romy Schneider, ce matin, avec Jean-Pierre Lavoigna, notre invité, et on se retrouve juste après Angèle. Paris, il est 10h05 et on continue de raconter l'histoire de Romy Schneider. Ça fait 40 ans cette année qu'elle nous a quittés et pour autant elle reste dans nos mémoires plus que jamais. Jean-Pierre Lavoigna, un petit mot pour parler aussi de ce métier qu'elle a fait, peut-être aussi pour exorciser une période noire de l'histoire. Romy Schneider a tourné 5 films ayant pour sujet la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'on redécouvre aussi dans l'exposition qui lui est consacrée en ce moment à la Cinémathèque. Elle sentait une certaine culpabilité.
Oui, mais comme tous les Allemands de cette génération, quand vous regardez les cinéastes allemands, que ce soit Wim Wenders, Werner Herzog, Fassbinder, enfin tous les Allemands, tous les jeunes Allemands de cette génération-là, il y avait forcément le poids de la guerre. C'est pas spécifique du tout à Romy Schneider. C'est-à-dire, moi je me bats un peu parce qu'on a le sentiment qu'on essaye de la coincer là-dedans comme si c'était la seule. Mais d'abord, c'est des metteurs en scène français qui lui proposent les sujets. Et puis, il y a tout un contexte de l'époque. L'Europe est en train vraiment de se construire. Donc, on décide de regarder, pour regarder l'avenir, on regarde aussi le passé pour construire sur des bases saines. En France, c'est le moment où il y a les documentaires Le Chagrin et la Pitié. Enfin, c'est vraiment une problématique qui est dans l'air du temps. Elle n'est pas juste spécifique à Romy Schneider. Alors, le fait qu'effectivement, elle soit d'origine allemande, fait que ça interroge un peu plus. Mais elle a la culpabilité, je pense, qu'ont tous les Allemands de cette génération. En plus, son premier mari, c'est Harry Mayen, il était juif, il a été déporté à l'âge de 19 ans, donc tout ça a forcément compté dans sa prise de conscience. Mais on peut pas juste la limiter à ce côté, je suis obsédé par ça. Mmh. Et à l'époque, elle tourne ces films-là, mais elle en tourne autant, même plus d'autres qui ont pas trait à ça. Mais c'est vrai que c'est une sorte de ligne directrice dans sa carrière à ce moment-là.
Ouais, puis c'était une femme engagée aussi sur pas mal de questions sociales, notamment, j'ai découvert ça, le droit à l'avortement.
Elle a signé le manifeste en Allemagne, qui est l'équivalent du manifeste qui a été signé en France, dit des 343 salopes, comme disait Charlie Hebdo, qui demandait la libéralisation de l'avortement. Et elle l'a signé, et les risques étaient plus grands en Allemagne même qu'en France, parce qu'elle a failli être poursuivie par la justice et tout, et puis ils se sont aperçus qu'il y avait trop de femmes à poursuivre. Donc ils ont arrêté. Ils ont arrêté les poursuites, voilà.
Rétrospective et hommage à Romy Schneider en ce moment à la Cinémathèque de Paris pour poursuivre justement le voyage temporel. Merci beaucoup Jean-Pierre Lavoigna.
Merci, allez-y et puis lisez un très joli livre qui est autour de Romy Schneider, c'est le livre de sa fille Sarah Biasini, ouais, qui s'appelle La beauté du ciel, où pour la première fois elle parle à la fois de sa mère et de sa fille.
Merci beaucoup Jean-Pierre Lavoignat et bon week-end.